Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International, le groupe d'Évreux, pour sa première émission du mois d'octobre. De novembre. On est en novembre. C'est vrai, le temps passe vite. Hein. Donc, la première émission du mois de novembre. Et c'est une émission qui ne sera pas entièrement consacrée aux droits de l'enfant, mais en grande partie quand même. Parce que vous êtes peut-être au courant, vous qui nous écoutez, que ce mois-ci, on fête le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'est un texte qui a été adopté par l'ONU en 1989, puisque c'est le 30e anniversaire.
Bien, bon calcul.
Qui a été ratifié par tous les pays du monde, à l'exception d'un seul. Tiens, je vais poser une colle à mes collègues, je vais vous dire qui est au micro juste après, mais je vais poser une colle à mes collègues. Est-ce que vous savez qu'il est le seul pays au monde qui n'a pas signé la Convention internationale des droits de l'enfant? Non, elle me regarde avec un air dubitatif.
Ouais, un grand pays, je crois.
Oui, c'est un grand pays.
Ouais. États-Unis ?
C'est ça.
Ouais.
Les États-Unis est le seul pays.
J'ai
au monde.
J'ai pas osé le dire trop fort.
Les États-Unis est le seul pays qui ne l'a jamais signé. Voilà. Donc pour faire l'émission avec moi, il y a Françoise.
Bonsoir.
Et il y a Edith.
Bonsoir.
Voilà. Donc on va vous en parler à plusieurs reprises dans le cours de l'émission, effectivement, de cet anniversaire. C'est un moment important. Et puis pour commencer, je crois qu'on avait prévu, si je ne me trompe pas, de vous lire le dernier éditorial de la chronique. La chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France. Je dis toujours, vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de souci, vous allez sur le site d'amnesty.fr et vous avez un formulaire pour vous abonner. Et donc c'est l'éditorial qui a été rédigé par Cécile Coudrioux, qui est la présidente d'Amnesty France.
Voilà, et bien 30 ans après l'adoption de l'ONU de la Convention internationale des droits de l'enfant, les jeunes revendiquent le respect de ces droits à travers leur mobilisation pour le climat. Ils sont en effet en première ligne dans la crise des droits humains, inextricablement liés au dérèglement climatique. Droit à la vie, au logement, à l'accès à la santé, à la nourriture et à l'eau potable. À ces menaces s'ajoute le mépris de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, selon lequel les opinions de l'enfant doivent être dûment prises en considération. Le flot de critiques, voire de haine, déversé sur l'égérie de ce mouvement, Greta Thunberg ne semble pas vouloir se tarir.
Et comment se faire entendre quand les gouvernements restent sourds? Les nombreuses marches pour le climat et le plaidoyer vibrant des jeunes activistes dans les médias ou diverses enceintes du pouvoir n'ont pas suffi. Greta et les 15 autres militants, de 8 à 17 ans et de 12 pays différents, se sont donc saisis de l'arme du droit, en l'occurrence du protocole facultatif de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui depuis 2014 offre aux enfants la possibilité d'un recours international en cas de violation de leurs droits, si les recours internes n'ont pas permis de solution. Sur cette base, les jeunes viennent de porter plainte auprès du Comité des droits de l'enfant de l'ONU contre 5 États, dont la France, en raison de l'insuffisance de leur action contre la crise climatique. Si les plus gros pollueurs, Inde, États-Unis et Chine, ne figurent pas dans cette liste, c'est parce qu'ils n'ont pas ratifié ce protocole et n'entrent donc pas dans ce cadre juridique.
La voix des enfants doit enfin trouver un écho chez nos dirigeants. Jusque-là, portée haut et fort dans la rue et l'espace médiatique, elle se fait entendre au sein du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Les experts indépendants de ce comité trancheront sur la recevabilité de la plainte. J'ai beaucoup de mal avec
recevabilité,
ce mot.
C'est
voilà,
ça.
Voilà, il y avait un accent en plus.
Et la recevabilité.
Voilà. Ils devront enquêter sur les violations présumées et faire des recommandations aux États visés. Celles-ci ne seront certes pas contraignantes, mais les 44 pays ayant ratifié ce protocole s'engagent en principe à les respecter. Au-delà de cette démarche, Amnesty International soutient l'idée que l'inaction des gouvernements face à la crise climatique constitue une violation intergénérationnelle des droits humains. Il y a 30 ans, Tous les États ont pris l'engagement de protéger la santé et les droits des enfants en signant unanimement cette convention, puis en la ratifiant, à l'exception des États-Unis. Nous devons les appeler à rendre des comptes et mettre en place sans plus tarder des plans d'action à la hauteur de l'enjeu. Voilà l'éditorial de Cécile Coudriou. Elle a intitulé « La voix des enfants ».
Voilà. Et je crois que Françoise a beaucoup d'autres informations qui va, dans le courant de l'émission, à nous donner par rapport aux droits des enfants.
Eh bien, je vais vous parler de ce qui s'est passé en Iran, où il y a eu deux adolescents de 17 ans flagellés et exécutés en secret. Mehdi Sobrarifar et Hamid Sedaga, deux cousins, ont été exécutés le 25 avril à la prison d'Adelabad à Shiraz, dans la province du Fars, dans le sud de l'Iran. Arrêtés alors qu'ils avaient 15 ans, tous deux ont été reconnus coupables de multiples accusations de viol à l'issue d'un procès inique. Les autorités iraniennes démentent une nouvelle fois qu'elles sont prêtes à mettre à mort des mineurs en violation flagrante du droit international. Il semble qu'elles ont cruellement maintenu ces deux adolescents dans l'ignorance quant à leur condamnation à mort pendant 2 ans, les ont fouettés pendant les derniers instants de leur vie et ont ensuite procédé en secret à leur exécution, a déclaré le directeur du programme Afrique du Nord et Moyen-Orient à Amnesty. Le recours à la peine de mort contre les personnes âgées de moins de 18 ans au moment du crime est strictement prohibé au terme du droit international relatif aux droits humains et constitue une atteinte flagrante aux droits des mineurs. Depuis longtemps, les parlementaires iraniens auraient dû mettre fin à cette situation regrettable en modifiant le code pénal de manière à interdire le recours à la peine de mort contre toute personne âgée de moins de 18 ans au moment de l'infraction. Ces deux cousins étaient détenus dans un centre de redressement pour mineurs à Shiraz depuis 2017. Le 24 avril, ils ont été transférés à la prison d'Adelabad sans en connaître la raison. Le même jour, leurs familles se sont vues accorder un droit de visite sans savoir que c'était en vue de leur exécution. Le lendemain, le 25 avril, les familles ont soudain reçu un appel de l'Organisation de médecine légale d'Iran, un institut médico-légal d'État, les informant des exécutions et leur demandant de venir récupérer les corps de leurs proches. La procédure légale qui a abouti à la déclaration de culpabilité et à la condamnation des deux adolescents était inique et manifestement contraire au principe de la justice pour mineurs. À la suite de leur arrestation, ils ont été enfermés pendant 2 mois dans un centre de détention de la police où, selon leur témoignage, ils avaient été frappés. Ils n'avaient pas pu consulter d'avocat durant la phase d'investigation. La pratique, qui consiste à soumettre des mineurs aux interrogatoires de la police en l'absence d'un tuteur ou d'un avocat, viole la Convention relative aux droits de l'enfant, qui précise que les enfants en conflit avec la loi doivent bénéficier au plus vite des services d'un avocat. C'est l'article 12 de cette convention. En Iran, l'État qui exécute le plus grand nombre est l'État qui exécute le plus grand nombre de mineurs au monde. Or, en tant qu'État faisant partie de la Convention relative des droits de l'enfant et du pacte international, il est légalement tenu de traiter toutes les personnes ayant moins de 18 ans comme des mineurs et de s'assurer qu'elles ne soient jamais condamnées à mort ni à la réclusion à perpétuité. Entre 1990 et 2018, Amnesty a recensé en Iran 97 exécutions de personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits. Plus de 90 autres risquent toujours d'être exécutés. Les exécutions de ces deux jeunes n'ayant pas été rendues publiques avant que leur cas ne soit porté à la connaissance d'Amnesty, l'organisation craint que le nombre réel d'exécutions de mineurs délinquants dans le pays ne soit plus élevé que le nombre qu'elle a recensé. Les mineurs délinquants se trouvant actuellement dans le quartier des condamnés à mort risquent eux aussi d'être exécutés en secret si leurs cas ne sont pas portés à l'attention d'organisations de défense des droits humains. Nous constatons que les autorités iraniennes ont tendance à procéder à des exécutions de mineurs délinquants en secret et sans en avertir au préalable les familles. Il est donc essentiel que les acteurs internationaux influents, tels que l'Union européenne, multiplient leurs interventions diplomatiques et publiques pour faire pression sur l'Iran afin qu'il cesse de recourir à la peine de mort contre les mineurs délinquants.
Voilà, oui. Quand tu dis 17 ans, les pauvres, ils ont été emprisonnés à 15 ans. Donc, quand même, c'est vraiment terrible.
Oui. Bon, c'est à Didier de nous parler de la répression au Chili.
Françoise me renvoie la parole. Donc voilà, effectivement, moi je ne vais pas vous parler tout à fait de la Convention internationale des droits de l'enfant tout de suite, mais on y reviendra par la suite. Mais bon, par rapport à l'actualité, ça fait effectivement assez souvent la une de l'actualité en ce moment, à la télévision, à la radio, ce qui se passe au Chili. Il y a des mouvements, des manifestations effectivement importantes par rapport à un certain nombre d'abus, enfin de remise en cause de droits économiques de base. Et donc, visiblement, il y a une répression qui est devenue de plus en plus violente. Et Amnesty est en train de faire une enquête en fait, par rapport à ce qui se passe au Chili. C'est notre rôle de faire une enquête par rapport à cette répression. Et voilà donc le communiqué. Je vais vous lire le communiqué qui a été fait par Amnesty et que je vais compléter par l'extrait, juste un extrait, d'une lettre qui avait été faite aussi par Amnesty juste avant et qui est destinée au président du Chili qui s'appelle Sebastián Piñera. Voilà, donc voilà ce qu'Amnesty dit. Alors que la répression fait rage au Chili, nous ouvrons une enquête pour documenter les éventuels crimes de droit international commis par l'État. Le monde a les yeux rivés sur le Chili. Nos équipes sont sur place pour réunir des informations sur les graves violations des droits humains et les crimes de droit international qui auraient été commis par les agents de l'État. Le gouvernement chilien a fait savoir que jusqu'à présent, 18 personnes ont perdu la vie dans le contexte des manifestations, de l'état d'urgence et du couvre-feu. Selon l'Institut national des droits humains, 5 de ces personnes sont mortes aux mains d'agents des forces de sécurité. Cet institut a également indiqué que près de 2600 personnes ont été arrêtées, que 584 personnes ont été blessées, dont 245 par des armes à feu, et signalé d'autres graves violations des droits humains. Notre équipe de crise, recueille des témoignages et réunit des documents permettant de confirmer les allégations de violations des droits humains et de crimes de droit international, afin d'accompagner les victimes et de demander à l'État chilien de garantir leur droit à la justice, à la vérité, à la réparation et à la non-répétition. Plusieurs centaines de dénonciations de graves violations des droits humains allant du recours excessif à la force et à la torture, en passant par des perquisitions illégales et des arrestations arbitraires, ont été recensées par la société civile. Nos spécialistes des technologies numériques sont en train de vérifier les photographies et les vidéos que nous avons reçues jusqu'à présent. Nous demandons une fois de plus au président Sebastián Piñera de mettre fin à la violente répression qui s'abat sur celles et ceux qui exercent leur droit légitime de manifester pacifiquement. Et donc, dans cette lettre envoyée juste avant au président chilien, Amnesty a écrit, donc c'est adressé au président, « Comme vous le savez, toute personne a le droit de manifester pacifiquement. Le fait que certains groupes ou individus fassent usage de la violence lors d'une manifestation ne rend pas en soi l'ensemble de la manifestation violente et n'autorise pas les forces de sécurité à la disperser par la force. Si les incidents violents viennent à se reproduire, les autorités chiliennes ont l'obligation de garantir l'ordre public en les maîtrisant, sans pour autant porter atteinte aux droits des individus de manifester pacifiquement. Les autorités chiliennes devraient avant tout s'attacher à répondre aux revendications des personnes qui composent la société civile, plutôt que de concentrer leurs efforts à les réduire au silence en recourant à la force. De plus, selon votre déclaration du 20 octobre 2019, donc c'est adressé au président, dans lesquelles vous avez affirmé « Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant qui est prêt à faire usage de la violence sans aucune limite », cette déclaration envoie un message erroné à la société chilienne en assimilant les manifestations de revendications sociales à un conflit armé et en développant la rhétorique de l'existence d'un ennemi interne, assimilable à une cible militaire que les autorités publiques seraient habilitées à combattre par l'usage de la force. Ces déclarations portent sérieusement atteinte à l'obligation de respecter, protéger et garantir les droits de toutes les personnes au Chili, et en particulier le droit à la liberté d'expression et de manifestation pacifique, mais elles ouvrent également la voie à la justification de violations graves des droits humains à l'encontre de la population. Donc voilà. Donc Amnesty est en train de faire une enquête, et je suppose qu'il publiera d'ici quelques temps un rapport sur cette répression au Chili, qui a déjà fait au moins 18 morts. Voilà. Eh bien, Françoise, toi qui as le conducteur de l'émission sous les yeux, peux-tu nous dire quelle est la suite ?
Je vais chanter, Françoise, parce que je crois que c'est moi qui...
Oui, oui. Ah, non, mais c'était pour qu'elle nous dise la suite.
Ah ben,
mais voilà. Je l'avais sous les yeux.
Donc moi, oui, on va continuer un peu. Là, on est sur des nouvelles quand même de choses qui se passent dans le monde et qui ne sont pas forcément terriblement agréables, mais qui impactent les populations de certains pays. Moi, je vais vous parler de l'Égypte. Donc l'Égypte, où il y a une violence des autorités qui monte d'un cran. Donc le 12 octobre dernier, la défenseure des droits humains et journaliste Esra Abdel Fattah a été enlevée et agressée par des membres des forces de sécurité égyptiennes en civil. Le 12 octobre, après avoir été conduite dans un lieu de détention secret de l'Agence de sécurité nationale, Esra n'a pas été autorisée à contacter sa famille ni ses avocats. Plusieurs hommes l'ont alors rouée de coups parce qu'elle refusait de déverrouiller son téléphone. L'un d'eux lui a retiré son sweatshirt et l'a étranglé avec en lui disant « Ton téléphone ou ta vie ?» jusqu'à ce qu'elle leur fournisse son mot de passe. Pendant près de 8 heures, il l'a obligée à rester debout. L'un des hommes l'a ensuite menacée d'autres tortures si elle racontait quoi que ce soit au procureur. Esra ne s'est pas laissée intimider et a dénoncé ces violences au service du procureur général de la sécurité de l'État dès le lendemain. Malgré l'absence de preuves, le procureur a ordonné son maintien en détention pendant 15 jours supplémentaires. Elle fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pour usage abusif des réseaux sociaux et pour avoir aidé un groupe terroriste à atteindre ses objectifs. Ce n'est pas la première fois que les autorités égyptiennes s'en prennent à Esra. En janvier 2015, elle avait déjà fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire en lien avec l'affaire 173 sur le financement étranger des ONG. Esra Abdel Fattah est prise pour cible pour des motifs fallacieux et est détenue de manière arbitraire pour son travail en faveur des droits humains. Le récit des tortures infligées à Esra fait tristement écho au témoignage récent du militant et blogueur bien connu Ala Abdel Fattah, qui raconte avoir enduré un traitement similaire en détention. Ces méthodes alarmantes indiquent que les autorités égyptiennes montent d'un cran dans la brutalité à l'égard des défenseurs des droits humains, dans le but de terroriser leurs détracteurs et leurs opposants. En 2017, le comité de l'ONU contre la torture a signalé dans un rapport que la torture est systématique en Égypte, ajoutant que si elle est le fait des forces de sécurité, les procureurs des juges sont responsables du fait de favoriser cette pratique. Amnesty demande que le parquet égyptien mette un terme à cet usage ignoble de la torture, un crime aux yeux de la Constitution égyptienne et du droit international relatif aux droits humains, et qu'elle doit diligenter des enquêtes sur toutes les allégations de torture pour amener les responsables présumés à rendre des comptes. Quant aux alliés de l'Égypte, prendront-ils position contre la persécution, la torture et la détention arbitraire dont sont victimes les défenseurs des droits humains ? Alors dans les alliés de l'Égypte, on peut peut-être penser à un pays qu'on connaît bien, peut-être.
Qui est allié de l'Égypte ? Je ne vois pas de qui tu veux
voilà,
parler.
Qui vend des armes aux Égyptiens.
C'est peut-être la France ?
Peut-être un peu, ouais. Voilà. Il y en a d'autres aussi.
Oui.
Et alors, j'avais envie aussi...
il y a des actions pour elle, pour la soutenir.
Voilà, il y a des actions. Enfin, là, c'est... pour l'instant, elle est sortie. On va faire vraiment attention à ce qu'elle vit, puisqu'elle est assez courageuse pour continuer à s'opposer. Mais j'aurais voulu... Il y a aussi une action, elle, pour un défenseur des droits humains, Rami Chat, qui est sur le site d'Amnesty. Donc, je vous raconte un peu ce qui s'est passé. Lui, ce n'est pas très vieux. C'est en juillet 2019 qu'il a été placé en détention provisoire en Égypte. Provisoire, cette détention n'en a que deux noms, car Rami est emprisonné injustement depuis plus de 100 jours. Donc, vous pouvez interpeller les autorités égyptiennes pour exiger sa libération immédiate. Rami Chat est harcelé par les autorités égyptiennes depuis de nombreuses années en raison de son militantisme politique. Il a cofondé le mouvement BDS en Égypte. C'est un mouvement non violent qui milite pour demander à Israël de rendre des comptes sur les violations des droits humains commises dans la région. Le 5 juillet 2019, les forces de sécurité égyptiennes l'ont arrêté et l'ont transféré dans un lieu tenu secret, sans révéler ce qu'il était devenu de lui pendant 36 heures. Par la suite, il a comparu devant un procureur du parquet de la sécurité de l'État et il a été accusé d'assistance à un groupe terroriste. Et ce procureur renouvelle la détention de Rami Shah tous les 15 jours. Selon les textes de loi égyptiens, cette période de détention ne peut excéder 150 jours. Nous avons donc jusqu'au début décembre pour agir avant que Rami ne soit déféré devant les juges. Nous considérons, quand je dis nous, c'est nous et Amnesty surtout en particulier, Rami comme un prisonnier d'opinion, estimant que les charges qui pèsent contre lui sont sans fondement et uniquement liées à son exercice pacifique du droit à la liberté d'expression et à la participation aux affaires publiques. L'arrestation de Rami intervient dans un contexte de répression sans précédent contre les personnes critiques à l'égard du pouvoir en Égypte. Donc c'est, si vous avez 2 minutes, c'est le temps qu'il faut pour interpeller le procureur général. Donc vous allez voir sur le site d'Amnesty, vous tapez Égypte, Rami Shahat, et on peut agir sur Twitter, envoyer un email à l'ambassade d'Égypte, un courriel à l'ambassade d'Égypte en France, ou un courriel directement au procureur général. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, rapide, d'essayer, allez-y. Je vous rappelle son nom, Rami Shahat.
Ça s'écrit comment ?
R-A-M-Y-S-H-A-A-T.
Voilà. Et plus on sera nombreux à faire cette action, plus il y a des chances qu'on obtienne quelque chose, c'est clair. Quelques instants de musique, je pense.
God up there, something above. God, shine your light down here. Shine on the love, love of the loveless.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour son émission bimensuelle sur les droits humains. Et donc avec moi, François, je vous le rappelle, il y a Françoise et Edith ce soir. Et là, on vient d'entendre un morceau d'un groupe Hills, un groupe américain que j'aime bien. Et le morceau, c'est pour ça que je l'ai choisi, ça s'appelle Love the Loveless, qui veut dire aimer ceux qui sont sans amour. Je pensais que c'était par rapport aux droits de l'enfant, tout à fait de circonstance.
Voilà, oui, parce qu'il faut dire que là, aujourd'hui, c'est que les musiques de Didier. Donc c'est ce qu'il aime. À mon avis, c'est ce qu'il aime.
Je ne voudrais pas dire, mais c'est souvent moi qui m'occupe des musiques pour les émissions. Mais bon, ça intéresse que moyennement les auditeurs et les droits humains.
Bah oui, mais si, parce qu'on sait tes goûts maintenant, c'est intéressant voilà. Aussi.
Bon, je pense qu'il y a Françoise qui a quelques bonnes nouvelles à vous donner.
Oui, je vais vous donner des bonnes nouvelles, enfin, parce qu'il y en a quand même, heureusement. Alors, sur la Hongrie, par exemple. Après 4 années, Ahmed a retrouvé sa famille juste à temps pour fêter le 10e anniversaire de sa fille aînée. Fin septembre, les autorités chypriotes ont enfin autorisé ce Syrien à rentrer chez lui. En août 2015, il avait quitté son foyer à Chypre pour aider ses parents âgés et 6 autres membres de sa famille à fuir la Syrie. Un mois plus tard, ils se sont retrouvés parmi les centaines de réfugiés bloqués à la frontière serbo-hongroise. Des heurts ont éclaté. Ahmed a été arrêté et injustement déclaré coupable de terrorisme sur la base d'une loi hongroise aux termes extrêmement vagues. En janvier 2019, il était enfin libéré, mais resté bloqué en Hongrie car Chypre refusait son retour sur son territoire et auprès de sa famille. Plus de 24 000 personnes ont participé à l'action d'Amnesty en sa faveur et il a pu rentrer chez lui. Autre bonne nouvelle, un bon point pour l'Europe par rapport aux migrants.
Oh, bah dis donc.
Oui, quand même. Les ministres de l'Intérieur d'Allemagne, de France, d'Italie et de Malte, ainsi que des représentants de la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, ont conclu un accord dans la capitale maltaise fin septembre. Ce mécanisme temporaire, d'une durée de 6 mois, éventuellement extensible, devrait permettre, en cas de sauvetage d'embarcations en Méditerranée centrale, de répartir automatiquement les personnes débarquées. 6 pays auraient approuvé le principe. Il est primordial que d'autres États membres leur emboîtent le pas rapidement. Ce que l'on peut souhaiter fortement.
Oui, tout à fait, oui. On va surveiller quand même.
Oui, mais Amnesty va rester très, très attentif parce qu'effectivement, ce n'est qu'un tout début. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas de garantie que cet accord de réadmission, de répartition des réfugiés soit étendu aux autres pays de l'Europe.
On va déjà espérer et voir ce qui se passe.
Une autre bonne nouvelle concernant l'Australie. La Nouvelle-Galles du Sud dépénalise l'avortement. Une nouvelle loi votée le 26 septembre autorise l'avortement jusqu'à 22 semaines de grossesse en Nouvelle-Galles du Sud. Elle abolit un texte vieux de 119 ans qui prévoyait jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les femmes ayant recours à l'IVG. Après la légalisation intervenue en octobre 2018 dans le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud est le dernier État australien à dépénaliser l'avortement. Voilà.
Ah bah tiens, justement, moi je suis désolée, je vais avoir une nouvelle qui n'est pas terrible par rapport à l'avortement. Parce que là, on a appris qu'en Slovaquie, il y avait un projet de loi qui menaçait de rendre encore plus difficile l'accès à l'avortement. Donc le Parlement en Slovaquie a voté en faveur d'un projet de loi qui complexifie un peu plus l'accès à l'avortement. Les femmes et les jeunes filles qui souhaitent avorter seront désormais obligées de réaliser une échographie, d'obtenir des images de l'embryon du fœtus ou même d'écouter les battements du cœur du fœtus. S'il est adopté, ce projet de loi risque d'exposer les femmes et les jeunes filles à des traitements dégradants et à leur rendre la tâche plus difficile pour bénéficier des services légaux. Alors Amnesty demande aux députés slovaques de veiller à ce que le cadre légal et politique permette aux femmes et aux jeunes filles dans le pays d'avoir accès à des services d'avortement sûrs, sans entrave ni restriction, conformément au droit international relatif aux droits humains. Chaque femme doit pouvoir prendre ses propres décisions concernant son corps et ses grossesses, avoir accès à des services de santé en matière de sexualité et de procréation, et notamment des services d'avortement sûrs. Les autorités en Slovaquie doivent créer des conditions sociales permettant à chacune de prendre des décisions liées à la grossesse sans pression, sans discrimination ni stigmatisation, sans contrainte, sans violence, ni sanction. Au cœur du sujet réside la liberté en matière de procréation et le droit de toute personne pour prendre des décisions au sujet de son corps et de ses grossesses. Et en lisant, moi, en lisant ce texte, j'étais vraiment horrifiée des propositions de loi du Parlement slovaque, vraiment. Donc j'espère que ça ne sera qu'un projet de loi.
Oui.
Ça m'inspire deux réflexions, c'est que d'une part, il faut toujours se mobiliser pour la défense des droits, parce que Françoise vous a dit qu'effectivement en Australie, il y avait un État australien. C'est une confédération, je crois, l'Australie. Il y avait un État australien, effectivement, qui avait libéralisé le droit à l'avortement. Et Edith vient vous dire, effectivement, voilà, qu'il y en a un autre en Europe.
C'est pas Europe. Loin de chez nous. Hein.
Ça fait partie de l'Europe, effectivement, la Slovaquie, qui remet en cause. On rappelle simplement des choses très simples. Hein, le droit à l'avortement, ça fait partie du droit pour les femmes de disposer de leur corps. Voilà, c'est pas la peine de faire des grands discours par rapport à ça, qui est un droit fondamental. Et donc, effectivement, il faut continuer à se mobiliser parce qu'il y a des bonnes nouvelles, puis il y a aussi des pays qui retournent en arrière.
En plus, les termes qui sont mis, c'est-à-dire des images, des échographies, je suis vraiment assez horrifiée. Je pense que le Parlement slovaque doit être extrêmement masculin. Franchement.
Oui, sans doute.
C'est pas possible autrement d'avoir des idées aussi...
Tu veux dire des échographies, c'est-à-dire qu'ils vous ont montré des images de fœtus, des choses comme ça.
Non, il faut qu'elles fassent
une échographie. D'accord,
ah oui, j'ai mal compris. Obtenir des images de l'embryon avant d'avoir droit de se faire avorter. C'est vraiment de la torture mentale.
Tout à fait. Donc voilà, il faut continuer à se mobiliser et puis donc pour ce droit fondamental pour les femmes de disposer de leur corps. Voilà. On va en venir peut-être à notre mission presque spéciale Convention des droits de l'enfant.
Ah ben voilà, il y a l'actualité qui se mélange aussi, droits de l'enfant.
C'est bien.
Mais c'est vrai que moi j'ai vu, on a une chronique, alors Didier vous fait de la pub pour la chronique.
Oui, la chronique d'Amnesty qui est le mensuel d'Amnesty France, on le redira jamais assez.
Le petit livre qu'on reçoit
tous les mois quand on est abonné.
Voilà, et donc c'est toute la chronique est...
Accès
aux droits de l'enfant.
Celle de ce mois-ci, oui.
Donc, il y a un dossier, on ne pourra pas tout vous raconter, je vais juste vous mettre un peu en envie de le lire, parce qu'on parle des droits, alors il y a les droits de l'enfant qui sont connus, le droit, alors on va faire un quiz, le droit à l'éducation,
Le droit à la santé.
Le droit... Françoise au droit au logement.
Le droit au logement, oui, effectivement. Le droit d'être protégé.
Le droit à la santé.
Oui, on l'a dit. Le droit d'être protégé, effectivement. D'être
le droit de grandir, en sécurité. Droit à son identité. Donc voilà, effectivement, dans ce dossier de la chronique d'Amnesty, il y a des droits pour lesquels on est... on ne se rend peut-être pas compte en France qu'ils n'existent pas dans certains pays. Donc, il y a tout un article sur, effectivement, le droit à l'état civil. Hein, c'est en Afrique, surtout.
En Afrique,
oui.
Plein d'enfants ne sont pas du tout déclarés par des problématiques, on va dire, les enfants naissent dans des pays, dans des endroits où il n'y a pas de préfecture, où il n'y a pas d'état civil.
Oui.
Et il y a aussi la même chose, mais en Chine. Avec l'enfant caché, c'est-à-dire quand la Chine avait sa politique d'enfant unique, quand il y avait deux enfants.
Ça peut être un peu changé là maintenant.
Oui, mais oui, ça veut dire qu'il y a toute une génération d'adultes qui n'ont pas d'état civil, qui n'existent pas.
Oui, la politique de l'enfant unique a été supprimée. Oui.
Voilà, et il y a un autre article qui est aussi sur le rituel des albinos. On vous en avait déjà parlé
par rapport à Malawi. Dans nos émissions, il y a un certain temps.
Il y a plein de pays comme ça où on considère que l'albinos, c'est-à-dire l'enfant qui naît sans pigmentation et qui est un enfant qui a des pouvoirs magiques. Oui. Et on peut le tuer, on peut le torturer. Et ça existe encore maintenant. Et donc, ces articles, c'est aussi des droits un peu plus cachés. Et je vous conseille tout à fait la lecture de cette chronique.
Tout à fait. Et donc, moi, toujours pour parler sur le même sujet, je vais vous parler et je vais informer les auditeurs et les auditrices de peut-être un problème qu'ils ne connaissent pas, parce que là, ça concerne la France. Et la France a un comportement qui n'est pas conforme à la déclaration internationale, la Convention internationale des droits de l'enfant, puisqu'en France, on enferme des enfants dans des centres de rétention, c'est-à-dire dans des prisons. Et ça, c'est formellement interdit par cette convention. Donc Amnesty a fait un communiqué que je vais vous lire et qui est adressé à mesdames et messieurs les députés.
Je pense, Didier, tu peux dire tout de suite, il n'y a pas qu'Amnesty, il y a tout oui, un
il y a tout,
liste il y a de,
tout, tout à fait. De, il y a toute une série d'ONG qui ont signé le communiqué.
Voilà,
qui ont signé le communiqué que je vais vous lire, dont la Ligue des droits de l'homme, Médecins sans frontières, enfin, etc., etc., etc. Donc, adressé aux élus du Parlement. Le 10 septembre 2018, le Parlement adoptait la loi dite « Pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ». Alors que l'enjeu de l'enfermement administratif des enfants avait émergé des débats, vous vous étiez engagé à élaborer une proposition de loi pour y mettre un terme. Je précise effectivement que cette loi permet l'enfermement des enfants dans des centres de rétention lorsque les parents sont frappés d'obligation de quitter le territoire. Donc le communiqué continue. Un an a passé depuis. Un an pendant lequel l'enfermement d'enfants en centre de rétention administrative et en zone d'attente a continué de se développer. En 2018, 1221 enfants ont été enfermés en rétention à Mayotte et 208 dans l'Hexagone. 232 mineurs isolés ont été placés en zone d'attente la même année. 77 d'entre eux ont été refoulés. Or, les résultats de vos travaux ne sont toujours pas publics. Donc, c'est messieurs les députés et messieurs et dames les députés, ne sont toujours pas publics et nous craignons aujourd'hui que ne soit jamais déposée la proposition de loi que vous vous étiez engagé à rédiger. Depuis début 2019, l'absence d'une nouvelle loi protectrice a pourtant condamné 152 mineurs isolés à être maintenus en zone d'attente et 230 enfants supplémentaires à souffrir de la rétention pour la même métropole. Pour la seule métropole, pardon. Il s'ajoute aux 37 603 enfants qui ont été enfermés en rétention depuis 2010 du fait du statut migratoire de leurs parents et qui resteront durablement traumatisés par cette expérience, âgés pour la plupart de moins de 6 ans, confrontés à une situation angoissante où leurs parents ne sont pas en mesure de les protéger et de les sécuriser, ces enfants subissent des traumatismes psychiques de long terme. Un an que la situation dans les centres de rétention empire, taux d'occupation en hausse, allongement de la durée de rétention, multiplication des suicides, des automutilations, des grèves de la faim, des émeutes ou des tentatives d'incendie. Pour preuve, le signal d'alarme lancé par des associations au début de l'été. Un an que les drames s'accumulent. En mai dernier, une jeune fille de 16 ans enfermée au Mesnil-Amelot, c'est en Seine-et-Marne, oui, a tenté de mettre fin à ses jours en avalant des pièces de monnaie. Le mois dernier, ce sont des enfants de 1 à 6 ans qui ont été privés de liberté. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, Aïcha, 4 ans, est restée enfermée seule pendant 3 jours avec de la fièvre et une otite dans la zone d'attente de l'aéroport d'Orly. Et la semaine dernière, 6 mineurs de 15 à 17 ans ont été maintenus en zone d'attente de Marseille après avoir traversé la Méditerranée dans un conteneur et manqué d'y suffoquer. Dernièrement, plus de 170 000 personnes ont montré leur opposition à l'enfermement des enfants en signant la pétition de la CIMADE ou en soutenant la campagne « Vous avez la clé ». C'est le nom de la campagne. Une mobilisation qui a notamment permis de rendre visibles les conditions insupportables de rétention au centre du Mesnil-Amelot, de rencontrer le préfet qui a placé le plus d'enfants en rétention l'année dernière et d'interpeller le ministre de l'Intérieur. Une certitude, tant que l'enfermement administratif des enfants et des familles ne sera pas proscrit par la loi, les préfets continueront de l'utiliser, même par commodité. En cette année de 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant et compte tenu de l'examen prochain par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies de la situation en France, c'est le moment de mettre enfin un terme à cette pratique. Le comité l'a rappelé à maintes reprises, le fait d'enfermer un enfant au motif du statut migratoire de ses parents est toujours contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et constitue une violation de ses droits. Cette position est d'autant plus pertinente lorsqu'un enfant se présente seul aux frontières. Voilà donc ce communiqué qui rappelle aux députés leur engagement d'il y a plus d'un an de, effectivement, supprimer la possibilité d'enfermer les enfants au centre de rétention. Voilà. Donc, c'était important de le rappeler. Ça nous concerne directement, nous, ici. Et donc, on vous appelle effectivement toujours à nous soutenir par rapport à ces actions et à supprimer l'enfermement des enfants.
Vous pouvez aussi écrire à vos députés, qui sont nos députés aussi, en leur disant « vous avez appris ce texte-là et que vous êtes d'accord ».
Tout à fait. Ce communiqué a été envoyé à l'ensemble des élus au Parlement. Ils les ont tous reçus. Donc voilà. Mais bon, effectivement, ça fait ça, disons que ça nous fait toujours bondir, comme dirait Claire Lys, qui n'est pas là ce soir.
C'est un coup de gueule.
Ça nous fout les miquettes de savoir qu'il y a des enfants, y compris des enfants de 1 an, qui sont en France en prison.
Oui. Et surtout que c'est la dernière loi qui date de l'année dernière, c'est la modification de la loi sur l'asile. Quoi. C'est vraiment quelque chose de très récent. Hein. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas.
C'est ça. On s'écoute un petit peu de musique.
Oui.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. 'Cause maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on a eu un tout
On vous offre du silence. C'est pas mal, ça, pour une radio.
La lecture du CD s'était arrêtée. C'est peut-être moi, effectivement, au niveau de la technique, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Mais on s'en est rendu compte. On vous l'a remis après.
Donc, alors, voilà. C'était comment la minute de silence amnistienne?
Je ne sais pas, effectivement. On verra quand on va réécouter l'émission après, puis qu'on la mettra sur le site en podcast, comme on fait à chaque fois.
Voilà.
Mais bon, ça a été. Voilà, il y a eu un tout petit blanc.
Alors, on parlait des droits de l'enfant.
Oui, et alors dans le cadre d'Amnesty tous les ans, vous savez peut-être qu'il y a l'opération 10 jours pour signer. C'est-à-dire que pendant 10 jours, tous les pays du monde qui ont Amnesty, qui travaillent chez eux, font signer 12 cas ou 10 cas.
10 cas, c'est 10 cas.
Pour 10 personnes. 10
cas, 10
jours. 10 personnes, 10
cas, 10 jours.
10 cas, 10 jours, 10 décembre. C'est pour ça.
Oui, à peu près, en gros, quoi. C'est ça. C'est du 3 au 12 décembre.
Décembre parce que c'est le jour de l'anniversaire de la Déclaration universelle.
Voilà. Ah, Amnesty aime bien les textes.
Et cette année, pour la première fois quand même, 2 cas d'enfants sont signalés. Voilà, il y a un cas d'un enfant de 15 ans qui est situé originaire du Soudan du Sud. Alors, Maipo Nong n'était encore qu'un élève lorsqu'il a été arrêté et condamné à mort par pendaison le 14 novembre 2017, alors qu'il prenait part à une bagarre pour défendre un ami. Quelqu'un a affirmé son intention d'aller chercher une arme à feu. Magai a paniqué et a couru chez lui pour prendre l'arme de son père. Son cousin a tenté de mettre fin à l'altercation et dans le tumulte, une balle est partie et l'a blessé mortellement. Magai affirme que le coup de feu est parti de manière accidentelle et qu'il n'aurait jamais eu l'intention de blesser son cousin. Magai n'avait alors que 15 ans. Lors de son procès, il n'a bénéficié d'aucune représentation juridique. Il n'a pu consulter un avocat qu'une fois le procès terminé et alors qu'il avait été déjà condamné à mort par pendaison. Son avocat a fait appel de la décision du tribunal le 27 décembre 2017. Le 9 septembre 2018, il a été transféré de la prison d'État de Torit à la prison centrale de Juba, où il attend toujours que son appel soit examiné. Donc, on lance une action par rapport à lui pour, de façon à ce qu'il ne soit pas
exécuté.
Et un autre enfant, alors là, ça se passe au Mexique. José Adrián, 14 ans au moment des faits, 17 ans aujourd'hui. Cet enfant, jeune Maya, souffrant d'un handicap qui altère son audition. Le 25 février 2016, alors qu'il avait 14 ans, il est sorti de l'école pour rentrer chez lui dans une petite localité de l'état du Yucatán au Mexique. Ce jour-là, quelques jeunes se battaient dans la rue et des pierres avaient été lancées sur une voiture de police. José a été arrêté dans la rue par la police alors qu'il n'était pas sur les lieux au moment des faits. Il a été le seul à être arrêté. Les policiers ne lui ont pas expliqué ce qui se passait ni pourquoi. Et au lieu d'appeler immédiatement sa famille, ils l'ont roué de coups, l'ont poussé contre le véhicule et ont piétiné son cou. Ils ont enlevé ses chaussures, sa chemise et l'ont menotté. Il a été conduit au commissariat, attaché en hauteur, suspendu par des menottes. Il a été battu et menacé d'être poursuivi. Pour obtenir sa libération, ses parents ont dû payer des dommages, intérêts et une amende. La famille a porté plainte contre le bureau du procureur. En 2018, il a reçu un appareil auditif et le bureau du procureur a commencé à travailler sur l'enquête de cette affaire. Cependant, l'enquête avance très lentement. La recommandation de la Commission des droits humains est insuffisante. Donc, un appel principal à cibler. Le gouvernement de l'État du Yucatán doit fournir à José Adrián et à sa famille des réparations satisfaisantes pour les violations des droits humains qu'Adrián a subies, conformément à leurs souhaits, et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà les actions qui vous seront proposées concernant deux enfants.
Voilà, on en reparlera, je pense, dans la dernière émission du mois de novembre,
voilà,
de la campagne 10 jours pour signer.
Et si vous êtes curieux, allez voir sur le site. Je pense qu'on peut avoir aussi
des informations, effectivement.
L'identité des 10 personnes. Donc là, on sait qu'il y a déjà deux enfants grâce à Françoise. Et
il y a beaucoup de jeunes aussi.
Donc vous allez sur le site, vous tapez sur le moteur de recherche 10 jours pour signer et vous aurez les cas, effectivement, qui sont présentés cette année.
Et on vous dira nos rendez-vous sur Évreux pour que vous veniez signer à nos stands en plus. Ça sera sympa de vous rencontrer.
On est en train de préparer des choses. Voilà, pour cette campagne. Ouais. C'était à moi de parler, c'est ça?
Oui.
Bon, c'était à moi de parler.
Didier va faire l'action aujourd'hui.
Je voulais vous parler d'une pétition qu'on demande au maximum de gens, et surtout vous qui nous écoutez, d'aller signer. Alors, vous allez la signer sur le site. Sur la première page, sur la page d'accueil, dans les actions, il y a les pétitions. C'est très, très facile à trouver. Et c'était une pétition qui va être déposée à Monsieur le Président de la République au mois de décembre. Et Amnesty met l'accent dessus pour qu'on recueille le maximum de signatures.
Cette pétition
est destinée à défendre les défenseurs des droits humains. Et alors, pourquoi on défend ces gens-là? C'est effectivement des gens qui s'investissent, comme nous ici autour du micro, on en fait partie, des défenseurs des droits humains qui s'investissent pour défendre les droits des gens qui sont bafoués à travers le monde. Et Monsieur Macron a fait, Monsieur Macron a fait une déclaration devant le Conseil de l'Europe en 2017 où il disait « Le respect des droits de l'homme est battu en brèche. Ils sont considérés comme un affaiblissement par celles et ceux qui cherchent à les combattre ou les réduire alors qu'ils sont une force, une spécificité, alors qu'ils sont universels. Ils sont présentés comme une option alors qu'ils sont une obligation. » C'est Monsieur Macron qui
c'est
a dit
bien.
Ça. Voilà, nous, on ne peut que contresigner ces paroles.
Tout à fait.
Mais depuis, Amnesty constate que l'action du gouvernement actuel et des autorités de l'État pour défendre les défenseurs des droits humains n'est pas spécialement en pointe. Donc voilà, c'est pour ça qu'Amnesty a relancé cette pétition. Je vais vous lire simplement le texte de la pétition. « Chaque jour, des femmes et des hommes luttent pour défendre et promouvoir les droits humains à travers le monde. Mais ils se trouvent aujourd'hui confrontés à un niveau de persécution et de répression inédit, tandis que l'offensive contre les droits sont de plus en plus assumés par de nombreux dirigeants. En octobre 2018, 160 défenseurs du monde entier réunis lors d'un sommet mondial à Paris lancèrent un appel aux États pour qu'ils adoptent des plans d'action nationaux qui garantissent, reconnaissent et protègent le droit de défendre les droits humains. À cette occasion, vous avez rencontré une délégation, dans cette adresse à M. Macron, vous avez rencontré une délégation de défenseurs. Deux mois plus tard, votre ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, déclarait que la protection des défenseurs des droits humains serait une priorité de la diplomatie française. Pourtant, dans la pratique, la défense de l'universalité des droits ne résiste toujours pas aux intérêts économiques ou stratégiques de la France. En France même, les défenseurs des droits humains sont de plus en plus attaqués. des journalistes, des défenseurs des droits des migrants, de l'environnement, des observateurs de pratiques policières font l'objet de violences policières, voire de poursuites judiciaires. Monsieur le Président, il est temps de mettre en cohérence vos paroles et vos actes. Le gouvernement français doit répondre à l'appel des défenseurs en se dotant d'une stratégie claire visant à réellement protéger les défenseurs des droits et les espaces de la société civile en France comme à l'étranger. Il y a urgence à mettre en place un plan d'action de protection des défenseurs des droits humains. Voilà. Donc, allez signer cette pétition.
On va la signer où, Didier ?
Sur le site d'Amnesty.
Elle s'appelle comment ?
Amnesty.fr. Elle s'appelle, donc je vais vous relire le titre.
Bah oui, pour la trouver facilement.
Voilà, ça s'appelle « Monsieur le Président, il est temps de joindre les actes à la parole et de répondre à l'appel des défenseurs des droits humains ». C'est le nom de la pétition. Et vous l'avez sur l'onglet « Pétition » sur lequel vous arrivez dès la page d'accueil. Vous avez en haut à gauche un petit onglet où c'est marqué « Agir, pétition ». Vous allez sur la page « Pétition » et vous tombez directement dessus. Donc on vous recommande de la faire signer, de passer le message aussi autour de vous, parce qu'on voudrait effectivement la faire signer en grand nombre pour la déposer au mois de décembre. Voilà. Je crois, Edith, que tu avais
quelques déclarations à nous faire rapidement,
parce que le temps passe.
Je vois le temps qui passe. Alors j'avais envie de vous parler des Ouïghours. Vous savez, cette région de Chine, le Xinjiang, où il y a depuis quelques années des répressions pas possibles, avec 1 million de personnes qui sont emprisonnées dans des camps de rééducation que les Chinois appellent des camps de formation professionnelle. Donc oui, c'est des minorités, c'est les Ouïghours qui sont turcophones et puis qui sont d'origine kazakh, kirghize et tout ça. Donc ce sont des minorités ethniques. On sait, la dernière fois je vous avais parlé un peu de la Chine essayait aussi de bloquer complètement et de prendre en otage toute la diaspora ouïghour en les menaçant. Alors, ils les menacent par des messageries, la messagerie WhatsApp ou WeChat, ou alors, en fin de compte, ils leur font peur, ils leur demandent plein d'informations, ils leur disent « si vous ne travaillez pas pour nous, si vous ne coopérez pas, la personne étrangère, c'est souvent des jeunes, c'est souvent des étudiants, risque de voir sa famille déportée. » Donc, ils ont carrément un levier sur ces personnes-là. Ils essayent même de leur demander de rentrer dans des structures comme on a le témoignage d'un étudiant qui est allé à Ürümqi, donc la capitale du Xinjiang, et qui a été abordé par des Chinois. Et on leur a dit « intègre l'association des Ouïghours en France et raconte-nous ce qui se passe là-bas ». Bon, elle a réussi à se débarrasser et à ne pas le faire en rentrant en France. Mais c'est très, très, très compliqué. La Chine est en train absolument de transformer cette région en Chine, hein, c'est-à-dire fait comme elle a pu faire au Tibet. J'ai vu ce terme-là, siniser, donc
oui,
la rente chinoise.
Oui, c'est ça, terme, la rente chinoise, oui.
Ce qu'on peut dire quand même que cette région-là, c'est la région qui va accueillir bientôt les nouvelles routes de la soie du président Xi Jinping. Donc tous les moyens sont bons pour finaliser un tissage économique aux dimensions faramineuses qui voudrait relier la Chine à l'Europe. Et dans cette région, il y a absolument énormément de recherches, comment dit-on, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a plein de ressources.
Il y a des ressources, oui. Effectivement.
Voilà, plein de ressources. Et moi, ce que j'ai vu en plus de tout ce qui se passe, donc là, les étudiants, ça se passe en France, hein, c'est la Chine qui vient impressionner des étudiants ouïghours en France. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que là, maintenant, c'était encore pire, c'était les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des écoles, oui, mais effectivement, il y a des écoles et les enfants, ils sont kidnappés, on leur interdit de parler ouïghour. Enfin, je vous en reparlerai une prochaine fois parce que c'est quand même quelque chose
de...
C'est un ethnocide, quoi. C'est carrément...
Exactement, exactement.
Voilà, c'est carrément
on est en train de...
Et notre président...
Les autorités chinoises bafouent les droits d'une communauté importante.
Voilà, c'est la grosse machine qui arrive comme ça dans cette région-là. Et M. Macron n'a rien dit des Ouïghours lors de sa dernière visite, ce qui m'a énormément déçu.
Ben oui. Nos actualités locales, donc on se retrouve, si vous en avez envie, et j'espère que vous en aurez envie, jeudi et vendredi qui viennent de cette semaine, donc c'est le 14 et le 15, c'est ça ?
Oui, ouais.
Donc à 20h au théâtre pour la pièce Galilée. consacré voilà, effectivement aussi à la liberté d'expression. On aura une table de presse dans l'entrée du théâtre. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On y sera les deux soirs, jeudi et vendredi de cette semaine au Théâtre d'Evreux. Et puis également, on vous rappelle qu'on est associé pour une action pour les droits de l'enfant. On vient d'en parler. Le mercredi 20 et le jeudi 21. Le mercredi à l'abordage et le 21 au cinéma d'Evreux, le Pâté. Mais ce sont des journées réservées aux scolaires.
Pour les scolaires, pour des associations d'éducation.
Donc ne venez pas comme public parce que vous ne pourrez pas rentrer. Mais ce sont des actions, effectivement, pour faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant et auxquelles Amnesty Evreux participe. Voilà.
Et puis
notre prochaine émission, c'est quand on l'avait noté sur le conducteur, Françoise, tout à l'heure. Mais Françoise a déjà arrangé le conducteur. Donc on a
dans
plus la date de les
lieux. C'est dans 15 jours, pas
le 26 novembre à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et on laisse la place à notre ami du laboratoire qui est déjà arrivé. À très bientôt.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.